On vous l'avait annoncé, la voilà, émission spéciale à partir de la conférence de Jean-Jacques Rosa sur le dernier ouvrage publié des correspondances de George Orwell, Une vie en lettres aux éditions Agon.
Le Tricot, de la librairie Le Tracteur Savant. Merci d'être venus si nombreux. On va rajouter quelques chaises. Merci aux associations qui ont relayé l'information, même sans le train, au Babeltut, Mosaïque en Val. Merci à CFM de leur présence et d'enregistrement de cette conférence. Et donc, enfin, merci, un grand merci à Jean-Jacques Rosa qui nous fait l'honneur d'être ici. Donc Jean-Jacques Rosa qui est maître de conférence au Collège de France et qui va nous présenter une conférence sur George Orwell et la ruralité à partir du livre qui vient de sortir aux éditions Agon qui s'appelle « Correspondance ».
Merci beaucoup à vous pour cette invitation, pour cette occasion, pas cet honneur, mais ce plaisir de venir parler d'Orwell avec vous ce soir. Merci à vous d'être si nombreux par ce temps si désagréable. Ben, je vais tout de suite entrer dans le sujet. Donc l'occasion de cette soirée, c'est ce livre, Une vie en lettres, correspondance. Ce livre est une sélection de lettres d'Orwell qui ont été choisies par l'éditeur anglais, nous avons traduit ce livre, pour retracer la vie d'Orwell. C'est une biographie en lettres. Il y a donc 269 lettres d'Orwell lui-même sur 1700 qui ont été recueillies et qu'on peut trouver dans les œuvres complètes en anglais. Et l'éditeur anglais a ajouté 34 lettres de l'entourage d'Orwell et notamment de sa femme Eileen, dont je parlerai tout à l'heure, et j'en lirai un petit morceau de l'une d'entre elles. Je ne vous encombre pas de détails sur le choix de ces lettres. Les deux tiers de ces lettres sont totalement inédites en français. Alors, qu'est-ce que ce livre nous permet ? Ben, il nous permet de rencontrer Orwell au quotidien. Ce sont des lettres, si je peux dire, non littéraires. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des écrivains qui écrivent des lettres à leurs amis en sachant très bien que dans quelques années, leurs lettres seront publiées. Ce n'est pas du tout le style d'Orwell, et ce n'est pas du tout le cas. Ces lettres, vous verrez d'ailleurs, sont extrêmement, extrêmement diverses, peuvent toucher à des problèmes extrêmement concrets, matériels. Voilà. Les destinataires sont très nombreux, très variés. Sa femme, sa famille, des amis extrêmement divers. Les gens avec qui il travaille, ses éditeurs, son agent littéraire. Quelques inconnus aussi, comme Orwell était journaliste. Quelquefois, il y a des lecteurs qui lui écrivaient. Et souvent, il prenait la peine de répondre. Il y a deux, trois lettres comme ça, écrites à des gens qu'il ne connaît pas, mais qui lui ont écrit. Ça nous donne, si je peux dire, un Orwell au présent. Parce que ce n'est pas comme dans une autobiographie où l'auteur revient en arrière sur sa vie. Ce n'est pas non plus comme dans une biographie où il y a le biographe qui sait comment les choses vont se passer et qui raconte le présent en fonction du futur, si je peux dire. C'est la vie d'Orwell telle qu'elle se fait, telle qu'elle s'écrit au jour le jour. C'est un Orwell en direct, d'une certaine manière, c'est la voix d'Orwell qu'on entend, et c'est Orwell aussi, si je peux dire, dans ses lieux. C'est-à-dire que les lettres sont très souvent marquées par le lieu d'où elles sont écrites, à Londres, dans tel ou tel coin de la campagne anglaise, au Maroc, en Espagne. Bref, l'ambiance, le cadre de vie d'Orwell est très présent dans cette correspondance. Alors, à partir de cette correspondance, il y a beaucoup de choses de la vie d'Orwell dont on pourrait parler, parce qu'on réalise beaucoup mieux que dans une biographie, on prend conscience très concrètement d'un certain nombre d'aspects de sa vie. Je dirais que même quand c'est mon cas, on travaille depuis un certain nombre d'années sur Orwell, ben on découvre des choses qu'on soupçonnait pas, ou on se rend compte plutôt concrètement d'un certain nombre de choses. Par exemple, de l'extrême précarité de son existence, précarité matérielle. Il a tiré le diable par la queue pendant la plus grande partie de sa vie, difficultés matérielles, financières, je décrirai un peu un ou deux endroits où il a habité, vous verrez que c'est pas la fortune. Précarité due aussi à sa santé. Orwell est mort jeune, il est mort à 47 ans d'une maladie du poumon, c'est-à-dire une maladie du poumon qui a fini en tuberculose, mais qui devait être une tuberculose depuis un certain temps. Mais la première atteinte par sa maladie, Orwell est né en 1903, hein, et la première fois qu'il est réellement malade du poumon, c'était en 1929, à Paris. Il vit à Paris à ce moment-là, et il est hospitalisé à l'hôpital Cochin pendant 15 jours. Et ce problème de poumon, pendant 20 ans, va lui empoisonner l'existence. Et on mesure, en lisant la correspondance, à quel point cette maladie, était contre laquelle il a lutté en permanence, était, comment je dirais, une préoccupation permanente, et en même temps, comment il a essayé de l'ignorer et de travailler considérablement pendant tout ce temps-là et malgré cela. Travail incessant. Les œuvres complètes d'Orwell en anglais, c'est 20 volumes de 500 pages. C'est-à-dire, c'est énorme. Il a une activité extrêmement diverse. D'abord de journaliste, il écrit des centaines d'articles, souvent des recensions sur des livres, des comptes rendus de livres, des articles de politique aussi, de très nombreux articles de revues, et puis une dizaine de livres. Et on voit dans ses lettres comment constamment il a toujours un livre en chantier, et puis il y a toujours deux ou trois articles simultanément qu'il est en train d'écrire, et sa femme, elle se plaint de temps en temps de « Ah oui, il ne faut pas que je le dérange parce que… » Enfin, elle se plaint en riant, en se moquant toujours un peu d'elle et de lui. « Il ne faut pas que je le dérange, bon, parce que il travaille incessamment. » Ses amitiés aussi. Et les amitiés d'Orwell, elles sont très diverses. Je vais donner deux exemples. Orwell est un homme très engagé, je vais en reparler, très très engagé à gauche, et dans la gauche la plus radicale de son époque en Angleterre. Mais il n'aime pas beaucoup il n'a pas un respect immense pour la noblesse, anglaise, dont il trouve très souvent que quand elle occupe des terres, elle passe son temps à protéger les faisans, les serfs, etc., embêter les paysans. Il n'est pas très sympathique. La noblesse anglaise ne lui attire pas beaucoup de sympathie. Mais il est lié, à partir de 1942, à un certain David Astor. Astor, c'est la famille des hôtels Astoria, hein. C'est la grande famille noble et extrêmement riche, surtout anglaise, parce que David Astor est le patron d'un journal, l'Observer, avec lequel Orwell travaille dans certains cas, et ils deviennent amis. Astor suit un certain nombre de conseils d'Orwell, et inversement, quand la maladie d'Orwell s'aggrave, Astor va lui donner un certain nombre de coups de main, on en parlera tout à l'heure. Voilà, et en même temps, il correspond aux États-Unis avec un type qui s'appelle Dwight MacDonald. Alors MacDonald, c'est la gauche intellectuelle radicale américaine, et c'est intéressant parce que MacDonald est un pacifiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Orwell n'est pas du tout pacifiste, il a polémiqué très durement avec des pacifistes anglais, et en même temps, voilà, il est capable d'avoir cette amitié avec ce MacDonald, à qui il explique des tas de choses sur ses idées, et à qui, en même temps, à un moment, il demande s'il ne peut pas lui trouver des bottes. Parce que Orwell, il est grand, et il a des grands pieds, et il n'arrive pas, avec l'état de l'industrie de la chaussure anglaise pendant la guerre, à trouver des bottes à son pied. Il demande à MacDonald s'il ne peut pas lui trouver des bottes. Voilà, et puis des relations aussi avec les femmes, avec la sienne d'abord, qui est un personnage plein d'humour, plein d'énergie, ils se marient en 1936, elle meurt en 1945 sur une table d'opération. Mais il y a, dans les quelques échanges de lettres qu'on a entre eux, il y a une complicité qui est très forte, qui est très belle. Et puis il y a aussi d'autres femmes dans la vie d'Orwell, avant Hélène, après, on aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est assez intéressant de voir comment il s'adresse à elle. Mais j'ai annoncé Orwell à la ferme. Parce qu'une des choses qui m'a sauté aux yeux en préparant ce livre, en refaisant les notes, en les adaptant, etc., c'est l'importance de deux choix que Orwell a fait dans sa vie, à deux moments clés, je dirais, de son existence. Le premier, en 1936. Il a 33 ans et il se marie à ce moment-là avec Eileen. Et il décide de s'installer à la campagne. Je vais expliquer tout à l'heure dans quelles conditions. Et puis 10 ans plus tard, après la mort de sa femme, en 1946, après la guerre, il décide d'aller s'installer le plus longtemps possible, par période de plusieurs mois, dans une petite île en Écosse, dans l'ouest de l'Écosse, dans les Hébrides, et dans un endroit complètement paumé, c'est-à-dire qu'il est au nord de l'île, dans l'endroit le plus inaccessible de cette île, dans une ferme face à la mer. Et quand on lit les lettres, on se rend compte que ces deux choix ont été des choix très, très importants, c'est-à-dire des choix de s'installer, de quitter Londres, de s'installer à la campagne, dans des conditions de vie très rudimentaires et même assez isolées, avec un rapport extrêmement fort à la nature. Et je me dis que c'est intéressant d'essayer de réfléchir quoi cet homme a fait ces choix-là, quel lien ça a avec son activité d'écrivain, quel lien ça a avec ses engagements politiques. Certains commentateurs disent « Ah ben voyez, Orwell n'est pas vraiment un homme de gauche, c'est un conservateur, il va du côté de la nature, etc. » Je ne crois pas que ça tienne la route. D'autres qui disent « Ah ben oui, mais c'est qu'il était désillusionné de la politique, il en avait fini avec l'histoire, il retourne à la nature. » Je ne crois pas non plus que ça fonctionne, et je donnerai quelques exemples, j'essaierai de montrer pourquoi ça ne marche pas, pourquoi au contraire il y a une unité, je crois, très forte dans la vie d'Orwell. Premièrement, premier choix donc, 1936, il a 33 ans, et au moment de se marier, il va s'installer en avril 36, il va s'installer à 50 km de Londres, où il travaillait jusque-là dans une librairie. Il va s'installer dans un petit village de 200 habitants à peine, dans un petit cottage qui sert en même temps d'épicerie du village. Alors, c'est un moment clé dans sa vie. Pourquoi ? D'abord parce qu'il arrive au terme d'un certain itinéraire politique. Orwell a commencé sa vie, est né dans une famille tout à fait conservatrice. C'était une famille de fonctionnaires de l'Empire britannique. Et lui-même, à 19 ans, quand il sort de la plus grande école, la plus prestigieuse école public school britannique, il ne va pas à l'université, il s'engage dans la police coloniale en Birmanie. Il y passe 5 ans. Simplement, au bout de 5 ans, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire, de ce à quoi il participe. Il est complètement écœuré par le monde colonial, à la fois par l'oppression, la domination, l'humiliation. Il y a des pages très fortes là-dessus dans certains livres d'Orwell. Et aussi parce qu'il est très conscient, il a compris que les rapports coloniaux corrompait, pourrissait toutes les relations humaines. Son premier roman, Une histoire birmane, décrit cela très exactement. Comment toutes les relations humaines sont pourries par les rapports coloniaux, aussi bien d'ailleurs par la vie coloniale, aussi bien les rapports avec ce qu'on appelle les indigènes, enfin entre les Anglais et les Birmans, que les rapports entre les colons anglais eux-mêmes. Donc il quitte cet univers-là, il décide de devenir écrivain. Et il vient à Paris pendant 2 ans, vivre une vie d'écrivain fauché. Ça marche pas, il écrit des romans, mais il les brûle. Et puis, voilà, il va pendant plusieurs années mener une vie de petit boulot, dans la dèche, comme ça. Et puis petit à petit, il va en 33 prendre son nom d'écrivain, publier son premier livre, se mettre à publier un livre par an, et petit à petit commencer à se faire une petite place. Et 36, c'est le moment où il quitte les petits boulots, et où il commence à vivre de ses livres et de ses articles dans la presse. Alors, il vient vivre très chichement, vous allez voir, et peut-être d'ailleurs que le choix de quitter Londres et d'aller dans un petit village où la vie est moins chère et où on peut cultiver ses pommes de terre, et vivre des pommes de terre qu'on cultive, c'est aussi un choix économique. C'est aussi un moment clé dans son itinéraire, dans son itinéraire politique, je continue, c'est aussi le moment où petit à petit, il est passé au socialisme, et en 36, c'est le moment où, après avoir passé 2 mois à faire un reportage dans le nord de l'Angleterre, du côté de Manchester, de Birmingham, dans la classe ouvrière anglaise, chez les mineurs, écrasée par la crise, il revient avec un livre qui s'appelle « Le Quai de Wigan » dans lequel il explique pourquoi il est socialiste, pourquoi il devient socialiste. Donc c'est tout un itinéraire qui l'a conduit jusque-là. Quelques mois plus tard, il s'engagera dans la guerre d'Espagne et il deviendra un combattant républicain, antifranquiste dans les tranchées de la guerre d'Espagne.
CFM.
Jean-Jacques Rosa, toujours à propos de George Orwell.
À partir de 35-36, Orwell est un socialiste et un homme de la gauche radicale anglaise, non marxiste, non communiste, on y reviendra peut-être, mais très déterminé. C'est aussi un moment clé dans son évolution d'écrivain. Orwell a donc commencé à écrire à partir de 1927. Les premiers textes vraiment qu'on a sont du début des années 30. Et on s'aperçoit qu'il a mené un travail considérable pendant des années pour construire son style. L'idée d'Orwell, c'est que la langue, le langage ne doit pas faire écran entre nous et la réalité. C'est-à-dire qu'il a une formule dans un de ses textes en 1946 où il dit « La prose doit être, pour moi, la prose que j'aime doit être comme un carreau de fenêtre, comme une fenêtre transparente, enfin on voit à travers. Voilà. » Et le langage ne doit pas s'interposer entre nous et la réalité. Et il va mettre des années à... parce qu'il lit de la littérature contemporaine, il lit de l'époque, il lit Joyce, il a des commentaires très intéressants d'ailleurs sur l'Ulysse de Joyce par exemple, qui est la pointe de la modernité et de l'avant-garde littéraire de l'époque. Il cherche quelquefois à faire des essais un petit peu dans ce sens-là, mais il sent que c'est pas son style à lui, et il va bâtir son style à lui, son style simple, familier, un peu râpeux en même temps, très concret, qui va se manifester clairement dans son premier grand chef-d'œuvre, peut-être, qui est Hommage à la Catalogne, le livre qu'il va écrire en revenant d'Espagne. Et puis donc c'est le moment de son mariage. Donc si vous voulez, c'est un moment où la période de formation et d'auto-formation est terminée en quelque sorte. Mais il s'installe pas à Londres, il s'installe à la campagne, 40 km de Londres, donc dans ce petit cottage épicerie. Et je vais lire la description qu'il en donne. Voilà la description qu'il en donne 2 ans après s'y être installé, à un ami qui est écrivain aussi, un écrivain prolétarien. Parce qu'à ce moment-là, en juillet 38, Orwell a eu des problèmes de santé, il est dans un sanatorium, il vient d'y passer 4 ou 5 mois, et il doit partir au Maroc. Il va passer 7 mois au Maroc, parce que les médecins lui ont dit qu'il fallait aller dans un climat sec, et pas le climat anglais, pour soigner ses poumons. Donc il décide de partir là-bas. Et lui écrit donc à ce copain, il lui écrit ceci. « Tu sais que je dois partir à l'étranger cet hiver, sans doute pendant environ 6 mois à partir de la fin août. Eh bien, est-ce que tu aimerais avoir notre cottage sans payer de loyer et en contrepartie, tu t'occuperais des animaux. Tu sais à quoi ressemble notre cottage. C'est sacrément horrible. Mais c'est quand même plus ou moins vivable. Quand il y a des pluies soudaines en hiver, la cuisine a tendance à être inondée. Autrement, la maison est plutôt sèche. Le feu du salon, tu t'en souviens sans doute, fume. Mais je crois que la cheminée aura été arrangée avant notre départ et de toute façon, il n'y a pas vraiment de gros travaux à faire pour l'arranger. Il y a l'eau courante, mais évidemment pas d'eau chaude. Il y a une petite cuisinière à butane qui n'est pas bon marché, enfin je veux dire le gaz, mais il y a aussi un petit four à pétrole qui pourrait être ressuscité. Quant aux produits, il n'y en aura pas beaucoup de légumes car naturellement, Eileen toute seule ne pouvait pas s'occuper de tout le jardin pendant que lui était en sanatorium. Mais en tout cas, il y aura suffisamment de pommes de terre pour vous nourrir tout cet hiver. Il y aura aussi du lait, environ 1 litre par jour, car la chèvre vient de mettre bas. Beaucoup de gens ont un préjugé contre le lait de chèvre, mais il n'est pas vraiment différent du lait de vache, et on dit que c'est bon pour les enfants, comme on a une femme et un fils. Quant aux soins aux animaux, ça veut dire nourrir, etc., environ 30 oiseaux, il veut dire essentiellement des poules, je pense quelques oies, nourrir et traire les chèvres. Je laisserai des instructions précises sur la nourriture et je demanderai aux marchands de blé de livrer les provisions et de m'envoyer la facture. Tu pourras aussi vendre les œufs, le boucher qui passe 2 fois par semaine achète tout ce qu'on lui apporte, et mettre l'argent de côté pour nous. Il n'y aura pas beaucoup d'œufs au début, car la plupart des oiseaux sont de jeunes poulettes nées cette année, mais au début du printemps, elles devraient pondre environ 100 œufs par semaine. Vous voyez le caractère extraordinairement concret de cette correspondance, et puis des soucis d'Orwell, il part au Maroc. Il faut que quelqu'un s'occupe des animaux, son copain n'a pas un habitat très bien, est-ce que tu viens chez moi, en échange tu t'occupes de la volaille, quoi. Voilà. Donc il va rester en fait dans ce lieu officiellement pendant 4 ans, je dis officiellement parce qu'en réalité sur les 4 années, il va y rester en fait jusqu'en mai 40, jusqu'au moment où la guerre, la drôle de guerre est finie, en ce moment la guerre est déclenchée, mais c'est la véritable guerre qui a démarré et il vient s'installer à Londres où sa femme a trouvé du travail dans un ministère et où lui va bientôt s'engager à travailler dans la BBC, à la radio à Londres. Mais il va y rester en principe pendant 4 ans, mais pas tout à fait 4 ans, parce qu'en réalité, sur les 4 ans, il y a 6 mois en Espagne. où il va se battre. 5 mois de sanatorium et 7 mois de Maroc. Donc en fait, ça fait quand même en tout 2 ans et demi. Mais il va garder le cottage, même quand il est à Londres, il y retourne de temps en temps, ou bien il le loue, ou il le prête, ou il le loue à des amis. Mais je voudrais m'attarder davantage sur le deuxième choix d'Orwell, printemps 1946. Là, il a 43 ans, sa femme est morte l'année précédente. Ils ont adopté, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont adopté en 1944, 2 ans plus tôt, un petit garçon, Richard, que Orwell a décidé de garder avec lui après la mort de sa femme. Et il a envie plutôt de l'élever à la campagne. Et puis dans son travail, il en a marre, il a énormément travaillé dans le journalisme pendant toute cette période. Il faisait en gros 4 articles par semaine, et il sature, au fond. Et il a décidé d'écrire, il vient d'écrire La ferme des animaux, c'est le premier livre avec lequel il gagne vraiment de l'argent, 45. Et, pas gigantesquement, mais enfin, il commence à gagner un peu de l'argent sérieusement. Et il veut sortir du journalisme, et puis il veut écrire 1984. Et où est-ce qu'il va écrire 1984? Et bien, il veut se trouver un autre endroit. Et il décide à ce moment-là donc d'aller s'installer dans cette île de Jura, dans les Hébrides, tout au bout de l'île, là, face à la mer. Alors en réalité, ce que la correspondance permet de comprendre, c'est que c'est un projet qui date d'au moins une année avant, quand Hélène était encore vivante, et qu'en fait, c'est un projet qu'ils avaient tous les deux. Voilà la lettre qu'Eileen lui écrit, alors on est en mars 45. Mars 45, donc c'est la fin de la guerre, mais Orwell a décidé qu'il a une santé tellement mauvaise que non seulement il n'a pas pu être soldat, mais qu'il n'a pas pu être correspondant de guerre, mais quand même pendant les derniers mois, il veut aller voir sur place, donc il vient à Paris pendant quelques jours, pendant quelques semaines, il essaie de rencontrer Camus d'ailleurs à cette occasion-là, ça ne marche pas, bon, enfin, il y avait un déjeuner entre lui et Camus qui était prévu, puis il part en Allemagne pour aller voir à quoi ça ressemble l'occupation de l'Allemagne, parce que il espère que les Alliés ne vont pas recommencer comme en 1918, après le traité de Versailles, à écraser l'Allemagne. Donc, Eileen, à ce moment-là, est très malade, elle a un cancer, en fait. Elle va se faire opérer dans des conditions difficiles, parce que comme ils n'ont pas le sou, elle ne va pas aller chez les chirurgiens les meilleurs. Bref, et il y a une très longue lettre, et forte et belle lettre d'Eileen, qui lui dit notamment ceci. Elle lui donne des conseils, en fait, elle discute avec lui de l'organisation de leur vie. Je crois qu'il est tout à fait essentiel que tu écrives un autre livre. Comme tu le sais, je pensais que Tribune, c'est le journal dans lequel il a été rédacteur en chef pendant un moment, était mieux que la BBC, je le pense toujours. D'ailleurs, je crois bien que le travail d'éboueur municipal est bien plus digne et meilleur pour ton avenir en tant qu'écrivain. Mais, comme je l'ai dit avant de quitter Londres, je pense que tu devrais bientôt cesser le travail éditorial aussi rapidement que possible, que tu sois persuadé ou non qu'il faille rester au comité éditorial ou autre nom qu'on lui donne. Et naturellement, tu dois rédiger bien moins de comptes rendus, rien que des comptes rendus spécialisés si tu dois en faire. Selon mon point de vue, je préférerais infiniment vivre à la campagne avec 200 livres qu'à Londres avec n'importe quelle somme. Je ne crois pas que tu comprennes le cauchemar qu'est pour moi la vie à Londres. Je sais que ça l'est pour toi, mais tu en parles souvent comme si j'aimais ça. Je n'aime même pas ce que tu fais, je ne supporte pas qu'il y ait du monde tout le temps. Chaque repas me rend malade, parce que la nourriture a été tripotée par 20 mains sales et il m'est pratiquement impossible de manger quoi que ce soit qui n'ait pas été bouilli pour devenir propre. Je n'arrive pas à respirer l'air, je n'arrive pas à réfléchir plus clairement que ce qu'on attend de quelqu'un en train d'étouffer. Tout ce qui m'ennuie est justement ce qui se passe en permanence à Londres et ce qui m'intéresse le plus n'arrive jamais. Et je ne peux pas lire de poésie, je n'ai jamais pu. Quand je vivais à Londres avant de me marier, je partais au moins une fois par mois avec une valise pleine de poésie. Et ça me consolait jusqu'à la fois suivante. Ou bien je me rendais à Oxford pour lire à la Bodleian, la grande bibliothèque d'Oxford. On poussait une barque avec une perche sur la Cheer en été. Ou bien me promener dans Port Meadow, marcher jusqu'à Godstow en hiver. Mais toutes ces années, les années dernières, pendant la guerre, j'avais l'impression de me trouver dans un camp de concentration pas trop sévère. Donc le projet, en fait, d'aller à Barn Hill, dans cette ferme tout au bout de l'île de Jura, été fait par eux deux, et au fond, d'une certaine manière, Orwell réalise avec son fils et sa sœur qui va, il y a une nounou d'abord, et en même temps sa sœur, et c'est petit à petit la sœur qui va s'occuper de Richard, le fils, il va réaliser ce projet tout seul, ce projet qui était leur projet à tous les deux. Alors, pour avoir une petite idée de ce que c'est que d'aller s'installer dans cette ferme de Barn Hill, face à la mer, tout au bout, tout au nord de l'île de Jura, voilà faut que je retrouve la page, excusez-moi. Voilà comment Orwell décrit la situation à une jeune femme, une secrétaire qui l'a connue pendant qu'il était à Tribune et qui l'a invité à venir la voir, parce qu'il n'est pas tout seul, c'est pas un ermite, Orwell. Et il aime bien vivre avec ses amis autour de lui, il y a des gens qu'il aime bien et qui l'aiment bien. C'est avec impatience que j'attends votre venue le 22, mais je suis désolé de vous dire que vous devrez faire les derniers 13 kilomètres à pied, parce que nous n'avons pas de véhicule. Néanmoins, ce n'est pas un trajet si terrible que ça, si vous pouvez vous contenter d'un sac à dos pour seul bagage. Par exemple, un sac à dos et deux musettes. Je peux transporter tout ça à l'arrière de ma motocyclette, le seul véhicule que j'ai, mais pas de lourde valise. Envoyez la nourriture bien en avance pour être sûr qu'elle soit ici avant vous. Alors la nourriture, c'est la farine. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas trouver sur place. Quelques jours plus tard, la description qu'il fait à un ami, qui l'invite aussi d'ailleurs, vous allez voir, de cette vie à Barnhill, dans l'île. Je me trouve ici depuis le milieu du mois de mai et je suis à présent bien installé. J'ai absolument pas travaillé depuis 2 mois. Travailler, il veut dire à son bouquin. Seulement du jardinage. Ma sœur est ici, fait la cuisine, et Richard est venu avec Suzanne, la nounou. Je suppose que je vais devoir recommencer à travailler bientôt, mais je ne vais pas faire de journalisme avant octobre. Ici, nous sommes dans une belle et grande ferme avec salle de bain, et elle est maintenant assez confortable. Le seul problème est le transport. Tout doit être transporté sur une route inconcevable de 13 km et je n'ai qu'une motocyclette comme véhicule. Cependant, il n'est nécessaire de faire le trajet qu'une fois par semaine pour acheter du pain et les rations. Les rations, on est encore sous le rationnement. Le rationnement en Angleterre comme en France a dû continuer au moins pendant 2 ou 3 ans après la fin de la guerre. Nous nous en sortons plutôt bien pour la nourriture. Nous obtenons tout le lait dont nous avons besoin et une bonne quantité d'œufs d'un petit exploitant à proximité, notre seul voisin dans un rayon de 10 km. Nous attrapons beaucoup de poissons dans la mer et chassons aussi le lapin. J'ai également quelques oies que nous allons manger progressivement. La maison n'a pas été habitée depuis 12 ans et bien sûr le jardin est retourné à l'état sauvage. Mais je commence à reprendre le dessus petit à petit. Et cet automne, je planterai des arbustes fruitiers. Remettre la maison a coûté assez cher, mais le loyer est très bas. Et il est pratique d'avoir une pareille retraite où il est possible de disparaître quand on veut, sans être poursuivi par les coups de téléphone, etc. Pour l'instant, c'est à peu près un voyage de 2 jours de porte à porte. Un voyage de 2 jours pour aller de Londres jusque dans cette ferme. Alors la vie s'organise petit à petit. Voilà par exemple une description qu'il donne l'année suivante. Donc l'hiver 46-47, il retourne à Londres, il retravaille, il refait du journalisme, il ne touche pas à 1984. Et au printemps 47, il repart dans son île d'Écosse. Et voilà une description qu'il fait au mois d'août, mois d'août 47. Récemment, le temps a été vraiment incroyable et nous allons sans doute, je le crains, devoir le payer bientôt. La semaine dernière, nous avons pris le canot. Nous sommes allés passer 2 jours sur la côte atlantique, complètement inhabitée, dans une cabane vide de bergers. Pas de lit, mais par ailleurs assez confortable. Il y a de magnifiques plages de sable blanc de ce côté-là, et quand on grimpe dans les collines pendant environ 1 heure, on trouve des lochs, c'est-à-dire des lacs en fait, ou des estuaires, ça dépend, pleins de truites que personne ne vient pêcher parce que l'endroit est trop difficile d'accès. La semaine dernière, naturellement, nous nous sommes cassés le dos en aidant à rentrer le foin. Y compris Richard, il a 3 ans maintenant, qui adore se rouler tout nu dans le foin. Si tu as envie de venir, tu peux bien sûr le faire quand tu veux, préviens-moi seulement 1 semaine à l'avance pour aller te chercher. Après le mois de septembre, le temps devient vraiment sauvage, mais je sais qu'ici, il y a des journées très chaudes, même au milieu de l'hiver. Le Gulf Stream qui adoucit un petit peu la température dans ces zones de l'Écosse. Alors, question. Pourquoi, au fond, qu'est-ce qui conduit Orwell à aller là? Alors, il y a un article qu'il a écrit, une chronique qu'il a écrit dans sa revue, dans son hebdomadaire politique favori, en avril 1946, juste au moment où il va partir, justement pour la première fois dans cette île de Jura. Et dans ce texte s'appelle « Quelques réflexions sur le crapaud ordinaire ». En fait, ce texte est une célébration du printemps. Il est à Londres, Les hivers, manifestement, ont été très rudes, d'autant plus rudes qu'il y a le rationnement et que c'est difficile de chauffer, que le charbon est hors de prix, etc. etc. Et Orwell dit, commence l'article en disant « Avant l'hirondelle, avant la jonquille, et peu après le personnage, le crapaud vulgaire salue la venue du printemps à sa manière qui consiste à émerger d'un trou dans le sol où il est resté terré depuis l'automne précédent et à se traîner le plus rapidement possible vers la flaque d'eau la plus proche. » Quelque chose, une sorte de frémissement de la terre ou peut-être simplement une élévation de quelques degrés de température, lui a indiqué qu'il était temps de se réveiller. Cependant, certains crapauds semblent faire le tour du cadran et sauter parfois une année entière. Du moins, il m'est plus d'une fois arrivé d'en déterrer un vivant et apparemment en bonne condition au milieu de l'été. Et continue comme ça sur le crapaud qui se met à manger, à se nourrir, à grossir, à s'accoupler. Il y a un paragraphe entier sur l'accouplement des crapauds. Et puis, mais il écrit dans un hebdomadaire politique, très politique. Bien sûr, il y a un tiers de littérature dans cet hebdomadaire politique, hebdomadaire d'un certain niveau, mais ce n'est pas un hebdomadaire destiné aux intellectuels, c'est un hebdomadaire destiné à des militants politiques, syndicaux, de la gauche du Parti travailliste, maintenant au pouvoir, et qui est en train de transformer la société anglaise, enfin de réorganiser la société anglaise après-guerre. Or, qu'est-ce qui lui arrive à chaque fois qu'il parle de la nature? Ben, c'est qu'il y a des lecteurs qui lui écrivent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de nature? C'est pas ça qui compte. Parler comme ça de la nature, c'est pas un point de vue de classe. Bon. » Alors, voici ce qu'il écrit. Toujours à la fin de cet article, c'est les derniers paragraphes de cet article que je commente. « Est-il blâmable de prendre plaisir au printemps et à d'autres changements de saison? Pour être plus précis, est-il politiquement condamnable, alors que nous sommes tous, ou devrions tous être en train de gémir sous le joug du système capitaliste, de soutenir que bien souvent, la vie vaut davantage la peine d'être vécue grâce au chant d'un merle, au jaune d'un orme en octobre, ou à quelque autre phénomène naturel qui ne coûte rien et ne permet pas d'affirmer ce que les rédacteurs en chef des journaux de gauche appellent un point de vue de classe. Il est hors de doute que beaucoup de gens sont de cet avis que c'est contraire au point de vue de classe. Je sais par expérience qu'une allusion favorable à la nature dans un de mes articles s'expose à recevoir des lettres d'insultes. » Et Orwell développe toute une argumentation pour défendre l'idée qu'il n'y a pas du tout d'opposition, au contraire, entre ces idées de gauche radicale et l'amour de la nature et l'ancrage même dans la vie rurale. Premièrement, parce que cette condamnation de la nature, de l'amour de la nature, elle revient à dire que aimer la nature, ce serait acquiescer, accepter ce qui est, le monde tel qu'il est, l'ordre du monde, alors que le révolutionnaire devrait vouloir le changer. Alors Orwell répond ceci. Assurément, nous devrions être mécontents, nous ne devrions pas nous contenter de nous en sortir en nous tirant au mieux d'une sale affaire, c'est-à-dire de ce sale état du monde tel qu'il est. Et pourtant, si nous refusons tout le plaisir que peut apporter la vie réelle telle qu'elle est, quel genre d'avenir nous préparons-nous? Si un homme est incapable de jouir du retour du printemps, pourquoi devrait-il être heureux dans une utopie qui allégera le travail humain? Que fera-t-il du loisir que lui laisseront les machines? Si on diminue le temps de travail, si on passe à la journée de 8 heures et puis moins que ça, bon, ben oui, mais on va faire quoi? Est-ce qu'on va aller dans les lieux de loisirs qui sont promis par l'industrie capitaliste moderne ou par la société moderne plus généralement? Dans un autre texte de la même époque, Orwell s'intéresse à diverses publicités pour des complexes de loisirs qui commencent à se développer à l'époque, notamment aux États-Unis, et qui sont des mondes totalement artificiels. Lumière électrique, musique en permanence, piscine, etc., etc. Et Orwell constate que dans ces lieux-là, il dit « On n'y est jamais seul, on n'y fait jamais rien par soi-même, on n'y est jamais en présence de végétation sauvage ou d'objets naturels de quelque espèce que ce soit. La lumière et la température y sont toujours réglées artificiellement. La musique qui est omniprésente, la musique est de préférence la musique pour tout le monde, la musique de fond sonore. » Et l'ingrédient le plus important, son rôle est d'empêcher toute pensée ou toute conversation et d'interdire à tous les sons naturels, tels que le chant des oiseaux ou le sifflement du vent, de venir frapper vos oreilles.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, J'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de grilles. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. Des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville.
CFM. Jean-Jacques Rosa, toujours à propos de George Orwell.
Ce qui le conduit à son deuxième argument. Je pense qu'en conservant l'attachement de son enfance à des réalités telles que les arbres, les poissons, les papillons, les crapauds, on rend un peu plus probable la venue d'un avenir pacifique et honnête, et qu'en prêchant la doctrine selon laquelle il n'y a rien d'admirable hormis l'acier et le béton, on contribue à l'avènement d'un monde où les êtres humains ne trouveront d'exutoire à leurs excédents d'énergie que dans la haine et le culte du chef. Et en fait, ça l'amène à l'idée qu'il y a une forme d'expérience de la nature qui renforce les capacités d'indépendance d'esprit et de résistance au pouvoir. Au fond, le rapport à la nature, il y a une dimension politique très forte pour lui du rapport à la nature. Ce qui ressort très clairement de ce que j'appellerais son troisième argument, où il passe d'ailleurs à la première personne. Combien de fois suis-je resté à regarder de près les crapauds s'accoupler, ou deux lièvres se livrer à un pugilat dans un champ de blé en herbe, et ai-je pensé à tous les gens importants qui, s'ils le pouvaient, m'empêcheraient d'y prendre plaisir? Mais heureusement, ils ne le peuvent pas. Autrement dit, être dans la nature au milieu des animaux, à les regarder, c'est une expérience de notre liberté première, irréductible. Aucun pouvoir humain ne peut empêcher le retour du printemps. Et quand j'observe ou contemple le frais du crapaud, les ébats des lièvres, eh ben, aucun pouvoir, à cet instant-là, n'a prise sur moi. Et il continue. Tant qu'on n'est pas effectivement malade, affamé, terrorisé ou enfermé dans une prison ou dans un camp de vacances, le printemps reste le printemps. Les bombes atomiques s'accumulent dans les usines, on est en 46, la police rôde dans les villes, les mensonges sont déversés par les haut-parleurs, mais la Terre continue de tourner autour du Soleil, et ni les dictateurs, ni les bureaucrates, quelle que soit leur désapprobation, ne peuvent rien contre cela. Autrement dit, le retour du printemps, bah c'est comme 2 et 2 font 4 dans 1984. Vous vous souvenez peut-être que dans 1984, il y a une phrase clé. Pour moi, une phrase clé de ce roman, la liberté, c'est de dire que 2 et 2 font 4, quand cela est accordé, le reste suit. Autrement dit, pourquoi l'État totalitaire de 1984 est épouvantable? Parce qu'il s'empare de l'esprit des individus en leur forçant à croire des choses qui sont totalement absurdes, notamment que 2 et 2 font 5. Non. Et donc, pour Orwell, une des bases de la liberté, et de l'indépendance des individus, c'est de continuer à s'accrocher à 2 et 2 font 4, les pierres sont dures, l'eau est humide et les corps tombent de haut en bas, attirés par la force de la pesanteur. Eh bien, finalement, le retour du printemps, c'est pareil pour lui. C'est la même chose. C'est quelque chose qui échappe à toute puissance humaine et à toute puissance humaine sur notre esprit. Et donc, pouvoir, de même que pouvoir dire que 2 et 2 font 4 est un socle de la liberté politique, ben, vivre et observer le retour du printemps, c'est une expérience humaine et politique première et un autre socle de la liberté. C'est pourquoi je suis, pour ma part, convaincu qu'il y a un lien extrêmement profond, chez Orwell extrêmement étroit, entre son attitude politique fondamentale, ses choix politiques fondamentaux, et cet ancrage qu'il a cherché à plusieurs reprises dans sa vie, dans le monde rural. Rendre ça peut-être plus concret, je voudrais lire, elle est un peu longue, mais je conclurai, ce sera ma conclusion, une lettre qui date du 9 octobre 48. C'est les derniers mois que Orwell va pouvoir passer à Yura, parce qu'il est en train de terminer 1984, mais la maladie, elle, va très vite. Il a déjà passé plusieurs mois en hôpital au début de l'année, les médecins l'ont lâché, ont espéré que ça allait mieux, il est revenu à Jura, il a avancé dans le roman. Il a presque terminé. Malheureusement, il va falloir dactylographier le roman, le remettre tout au propre, trouver une secrétaire dactylo qui vienne dans ce fin fond d'une île écossaise. Il ne va pas trouver, il va le faire lui-même. Il ne peut pas travailler, il ne travaille que dans son lit. Et il écrit donc à ce David Astor, dont je parlais tout à l'heure, qui est très proche de lui à la fin de sa vie. Et voilà ce qu'il écrit. Et ce qui m'intéresse dans cette lettre, vous allez voir, c'est comment dans la même lettre se mêlent des choses sur sa maladie, des choses sur le monde où il vit, sur la nature, des choses sur son fils, et des considérations politiques où vous allez voir qu'il va être question de De Gaulle et de Franco. Bien qu'il ait un poste de radio qui marche mal. Donc la politique continue à le travailler. Et il est en même temps en train d'écrire 1984, le terminer. Tu avais raison quand tu as dit que je n'allais pas bien. Je vais un peu mieux maintenant, mais je me suis senti souffrant pendant environ 15 jours. Je n'arrive pas à faire le moindre effort. Marcher plus d'un kilomètre ou soulever quelque chose d'un peu lourd et surtout avoir froid me chamboule immédiatement. Même en sortant simplement le soir pour rentrer les vaches, je finis par avoir de la température. Par ailleurs, tant que je mène une sorte de vie sénile, je me sens en forme et j'ai l'impression d'être capable de travailler comme d'habitude. Je me suis tellement habitué à travailler au lit que je crois que je préfère ça, bien qu'évidemment il soit un peu problématique de taper à la machine. Je me bats avec les dernières étapes de ce sacré livre que je suis supposé terminer pour début décembre et j'y parviendrai si je ne retombe pas malade. il aurait été terminé au printemps s'il n'y avait pas eu cette maladie. Richard, donc c'est son fils, il a 4 ans, hein, vous allez voir, va extrêmement bien et est dehors par tous les temps. J'ai le regret de dire qu'il s'est mis à fumer récemment, mais il s'est rendu horriblement malade et ça l'en a dégoûté. Orwell fume énormément. Il jure aussi. Je ne l'en empêche pas, bien sûr. Mais j'essaie d'améliorer un peu mon propre langage. Le temps a été absolument exécrable, excepté 3 ou 4 jours. Bill Dunn, type qui travaille avec lui, qui va épouser d'ailleurs sa sœur, Bill Dunn est parvenu à rentrer tout son foin et son blé très tôt, mais il a dû y avoir beaucoup de dégâts dans d'autres endroits. La ferme s'organise. Il, c'est d'ailleurs Bill, c'est toujours Bill Dunn, a maintenant une 50aine de moutons et une 10aine de vaches, dont certaines m'appartiennent. Nous avons aussi un cochon que nous n'allons pas tarder à transformer en bacon. Je n'en ai jamais eu avant et je ne serais pas triste de voir celui-là partir. Ce sont des animaux très irritants, destructeurs, et il est difficile de les garder dans un enclos parce qu'ils sont tellement forts et malins. Nous avons maintenant un bon petit jardin. Bien sûr, il est en partie revenu à l'état sauvage parce que je ne peux pas beaucoup y travailler, mais j'ai l'espoir de faire retourner la terre cet hiver par un ouvrier irlandais. Et même cette année, nous avons eu pas mal de fleurs et des tas de fraises. Richard semble s'intéresser à la ferme et aux travaux agricoles. Il m'aide au jardin et est parfois très utile. J'aimerais bien qu'il soit fermier quand il sera grand. C'est effectivement ce qui se passera. En fait, je ne serais pas surpris que tous ceux qui parviendront à survivre soient obligés de le devenir, mais je ne vais certainement pas le forcer. Les angoisses d'Orwell à ce moment-là, c'est évidemment guerre atomique. Hiroshima, c'était 3 ans plus tôt, et les Américains développent la bombe, les Russes se mettent à en avoir une. Bon. J'ignore quand je vais me rendre à Londres, je dois d'abord terminer ce livre, et je n'ai pas envie d'être à Londres juste avant Noël. J'ai pensé venir en janvier, mais je dois attendre d'être suffisamment en forme pour voyager. J'ai un peu perdu le contact avec ce qui se passe, en partie parce que la pile de ma radio est très faible, mais tout a l'air assez sombre. On est en pleine guerre froide, bien sûr. Je ne crois pas personnellement qu'une guerre totale et meurtrière puisse survenir aujourd'hui, seulement des incidents, comme nous en avions tout le temps l'habitude entre la Russie et le Japon. Mais je suppose que la guerre atomique est à présent une certitude dans les prochaines années. Ce livre que j'écris s'intéresse à l'état de choses possible si la guerre atomique n'est pas concluante. Je pense que tu avais raison en fin de compte quand tu disais que De Gaulle était une figure sérieuse. Il semble que Astor s'intéressait beaucoup à De Gaulle. Je suppose qu'au besoin, nous devrons défendre le port, donc c'est De Gaulle, plutôt que d'accepter une France communiste. Mais je dois dire que la défense de Franco, qui semble être à présent notre politique, est une erreur. En France, il ne paraît pas y avoir de troisième voie possible entre De Gaulle et les communistes, parce qu'à l'exception du PC, il n'y a jamais eu de mouvement ouvrier de masse, et tout le monde est apparemment soit pro-communiste, soit bien-pensant. Mais à partir du peu que je connais, je ne dirais pas que les choses sont semblables en Espagne. Il ne fait aucun doute que ce sont les catholiques américains qui ont empêché que Franco soit mis à l'écart en 1945. Je suis toujours inquiet à propos de notre politique en Afrique, et en Afrique du Sud. Tout ça est des plus déprimants. Je n'arrête pas de me dire, est-ce que je parviendrai à finir tel ou tel livre, il pense au livre futur qu'il espère écrire après 1984, avant que les fusées ne commencent à voler et que nous retournions. Un aigle survole le champ devant la maison. Ils viennent toujours ici quand il y a du vent. J'avoue que cette dernière phrase, Orwell, qui est au plus mal, là, et qui se bat contre lui-même, si je peux dire, ou contre la maladie, pour terminer 1984, qui fait ce tableau, et puis voilà, il y a l'aigle. Hein. Un aigle survole le champ devant la maison, ils viennent toujours ici quand il y a du vent. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là, et puis à partir de là, on peut peut-être parler un petit peu d'Orwell.
Arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. Los proletarios gritan guerra, hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la luz. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional.
BFM.
Dans le débat avec la salle, plusieurs questions ont été posées, bien sûr. Nous n'avons pu retenir que la réponse à la question de la guerre d'Espagne et de la place George Orwell dans le démarrage de ce conflit, puisqu'il était à Barcelone en juillet 36. Nos excuses à tous les autres débatteurs dont nous n'avons pu retenir les questions et encore moins les réponses dans une heure d'émission.
Alors, c'est une période très importante, hein. Effectivement, la guerre d'Espagne commence en juillet 1936 et il termine le livre qu'il avait commencé sur la classe ouvrière anglaise. Il le remet à l'éditeur en décembre 36 et aussitôt il part en Espagne. Il part en Espagne par le biais d'un petit parti. Il a fait sa formation politique, Orwell, dans un petit parti qui était à la gauche du Parti travailliste, qu'on appelle l'Independent Labour Party, le parti travailliste indépendant. Et ce petit parti travailliste il y a des militants de ce parti qui sont partis en même temps que lui, il n'était pas adhérent à l'époque, et qui ont des liens avec un autre petit parti espagnol, qui s'appelle le PUM, le Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, qui était un parti marxiste, mais très anti-stalinien. Et Orwell arrive là-bas, et évidemment, il s'engage aussitôt, et il se retrouve sur le front d'Aragon, qui n'est pas le front le plus actif, tout simplement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de munitions et même pas beaucoup d'armes, parce que l'armement, il est donné par les Soviétiques, et que les Soviétiques n'aiment pas beaucoup le petit parti en question. Ceci dit, il finira quand même à la fin du mois de mai, par se prendre une balle, par participer quand même à quelques combats très intenses, et après s'être gelé un certain nombre de nuits dans les tranchées, par un petit matin prendre une balle en pleine gorge qui lui passe à quelques millimètres de l'aorte. Heureusement, il n'y a que les cordes vocales qui sont un petit peu touchées, il a du mal à parler pendant quelques semaines. Ça, c'est le premier aspect, je dirais, de son engagement. Le deuxième, c'est qu'en mai, dans les premiers jours de mai à Barcelone, il est en permission à ce moment-là. Sa femme est là, sa femme travaille au service de l'Independent Labour Party à Barcelone, qui a donc une quarantaine, une cinquantaine de militants engagés dans les milices. Et c'est le moment que les communistes choisissent, et le gouvernement dirigé par les communistes ou appuyé par les communistes choisissent pour commencer à mettre au pas les anarchistes et justement les militants de ce petit parti, le PUM. Et donc il y a des combats de rue assez violents. Orwell y est mêlé, il va garder les locaux de son parti. Il n'a pas à tirer, il n'est pas dans les endroits les plus violents, mais il commence à comprendre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le rôle contre-révolution. Qu'il y a une guerre à l'intérieur du camp républicain, et que le Parti communiste joue de plus en plus un rôle contre-révolutionnaire dans cette affaire. Et il joue un rôle tel que Orwell repart se battre, se fait donc grièvement blessé, revient à Barcelone, en ignorant totalement qu'entre-temps, le PUM a été interdit, et que ses militants sont pourchassés. Il arrive à l'hôtel, sa femme lui dit de fuir, lui explique, etc. Pendant un certain nombre de jours, il va se planquer, dormir la nuit dans les jardins publics, etc., etc. Et réussir de justesse à échapper aux griffes de la police politique qui est en train d'arrêter en masse tous les militants, et notamment les dirigeants du PUM, et un certain nombre de ses camarades anglais qui vont se retrouver accroupir dans les prisons pendant un certain nombre de mois. Ce qui, étant donné en plus la santé d'Orwell, aurait été assez terrible. Enfin, la fragilité d'Orwell du côté du poumon. Et le problème d'Orwell, c'est que quand il rentre en Grande-Bretagne, il s'aperçoit que tout cela, tout ce qu'il vient de vivre est complètement inconnu, qu'on pense que, effectivement, les gens du poum et les anarchistes sont des sympathisants, sont des trotskistes dangereux, un peu espions d'Hitler, etc. Enfin, que toute cette propagande éhontée déclenché par les communistes à court, et que, évidemment, il y a un certain nombre de gens qui n'y croient pas complètement, mais qui se disent qu'il y a peut-être. Et puis qui ne veulent pas se fâcher avec les communistes. Et son éditeur, par exemple, son éditeur qui est un éditeur de gauche, qui dirige le club du livre de gauche en Angleterre, dans lequel il a publié le précédent bouquin sur la classe ouvrière anglaise, Hommage à la Catalogne, l'éditeur ne veut pas. Parce qu'évidemment, il sait très bien qu'Orwell va raconter ça. Et Orwell doit publier Hommage à la Catalogne chez un autre éditeur, avec qui il deviendra ami, mais Et au fond, c'est le moment où Orwell commence à avoir l'idée de 1984, enfin les idées qui vont le conduire à 1984. C'est-à-dire le fait qu'il peut se passer un certain nombre d'événements, parce que le parti ou parce que le chef a dit ça s'est pas passé, eh ben, il faut dire que ça s'est pas passé. Et parce que des événements qui ne se sont pas passés, il faut que ça soit passé, eh ben, on va dire que ça s'est passé, etc. Et donc la question de la vérité, la question des faits, la question de la lutte pour la vérité, pour ce qu'il appelle, je sais que c'est un terme qui aujourd'hui est difficile un petit peu à employer peut-être pour certains, ce qu'il appelle, lui, l'attitude libérale, la mentalité libérale, qui est de dire que la vérité, ça ne se fabrique pas. La vérité, ben, on la découvre, c'est le réel qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux, c'est pas nous qui construisons et qui inventons la vérité. Sinon, on est dans la propagande, etc. Et au fond, ces idées-là, elles commencent pour lui à devenir importantes au moment de la guerre d'Espagne.
C'était une conférence de Jean-Jacques Rosa, maître de conférence au Collège de France, à l'invitation du Tracteur Savant, la librairie de Saint-Antonin-Nobleval, et à propos de l'édition des correspondances de George Orwell. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur cfmradio.fr, les émissions culturelles George Orwell.